au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Je vous dis qu'on n'arrête pas de travailler durant les pauses. Alexandra Marcoux, notre recherchiste, m'arrive avec une statistique forte, importante et qui parle d'elle-même, ma foi. Admettons que vous avez un litige, locataire-propriétaire, puis vous faites une plainte ou encore vous faites un recours devant la régie du logement. Avant d'être entendu, pour la première audience, là, tu dis « Hey, bon, j'en vais à la régie du logement, c'est assez grave qu'il faut qu'on règle ça. Les assesseurs puis le président du tribunal va régler ça, là. » C'est assez important. Ben, avant que vous soyez entendu, il va s'écouler 4 mois et demi. C'est pas si pire. En moyenne, ça, c'est la moyenne. 4 mois et demi. Fait que t'as un problème aujourd'hui, tu régleras pas ça avant le mois de septembre, mon petit frère. Peu importe que tu sois locataire ou propriétaire pour une première audience, ça, c'est les statistiques de 2017-2018, je pense. Alors voilà, c'est assez spécial et particulier. Que voulez-vous? Il y a une autre problématique qui va frapper plusieurs personnes et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point parce que je suis convaincu que bien des gens, quand ils se retrouvent dans cette situation limite-là, celle de dire « je déclare faillite », qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça prend? Quand est-ce qu'on est sur le bord de la faillite? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'ABC de ça? Parce que, parenthèse, avant d'aller voir notre invité, nous autres, à l'école, au Québec, on a décidé d'apprendre bien des affaires, mais on ne sait pas c'est quoi un billet de monde, on ne sait pas c'est quoi un emprunt, un prêt hypothécaire, c'est quoi ci, c'est quoi ça. On n'a aucune éducation économique qui nous est faite dans nos écoles. De sorte que la première affaire que tu vas faire un prêt auto, tu ne sais pas tout à fait ce que c'est, mais tu dis « je pense bien que je suis capable de le payer ». Après ça, quand tu as un petit peu plus d'argent, tu te dis « tiens, je vais m'acheter une maison, prendre une hypothèque ». Là, ils t'offrent des hypothèques, puis ils mettent ton prêt auto dedans. Tu te ramasses à payer plus cher que ta maison veut. Puis là, tu t'embarques, et les banques là-dedans, évidemment, prêtent allègrement. Vas-y, c'est pas nécessairement de savoir comment tu peux vraiment payer. Et tu te ramasses dans une situation où un jour, ça ne marche plus. Tu n'en as plus pour mettre du ballonné dans le frigidaire. Pierre Fortin, c'est un chroniqueur en économie au Journal de l'Actualité, à la Revue de l'Actualité. C'est un professeur émérite de sciences et économie à l'UQAM. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour, M. Mongrain.
Comment on en arrive dans une situation où on est face au mur et au précipice de la faillite?
Ben, quand tu es dans une entreprise, c'est que tu as travaillé fort, mais tu n'es pas capable de vendre autant que ça te coûte de produire ce que tu veux vendre. Donc, tes revenus sont inférieurs à tes dépenses. Puis là, évidemment, il y a des, tu as emprunté de l'argent et tes créanciers viennent pour se faire payer, comme par exemple les intérêts hypothécaires sur ta maison ou les autres emprunts que tu as faits. Et là, tu leur dis, ben, je m'excuse, là, j'ai plus d'argent. Et donc, tu peux à ce moment-là déclarer faillite. Et évidemment, il y a des conséquences pour toi, puis il y a des conséquences aussi pour les créanciers eux-mêmes. Parce que si tu n'as pas d'argent pour les remplacer, les rembourser, ça veut dire qu'eux autres, il faut qu'ils se partagent des montants qui sont plus faibles que ce qu'ils ont, ils t'ont prêté.
Je comprends.
Donc, la faillite, c'est ça.
Donc, et ce qui est vrai pour une entreprise est vrai pour des particuliers, là. Mon budget...
Oui,
mon
c'est
budget...
aussi vrai pour les particuliers. Il peut y avoir des... Même en fait, n'importe quel niveau d'entreprise particulier peut tomber en faillite.
OK. Donc, avant, pour les familles, parce que parlons des familles, après ça, je vais revenir à business puis aux entreprises. Avant, il y avait la loi du dépôt volontaire. Avant ça, il y avait la loi Lacombe. Là, quand on est en faillite, c'est quoi mes solutions? Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne veux pas tout perdre non plus parce que je ne suis plus capable de payer mes créanciers, soit mon hypothèque, soit mon emprunt sur l'automobile. Est-ce que je peux me mettre, parce qu'on l'entend souvent, se mettre à l'abri de ces créanciers?
Oui. En plus de la loi sur la faillite, ce qu'on appelle la loi sur la faillite et l'insolvabilité, il y a aussi une autre loi qui s'appelle la loi des arrangements avec les créanciers. Ça, c'est une loi qui... avant que tu déclares faillite, te permet de te mettre à l'abri des réclamations de tes créanciers pendant un certain temps pour te permettre de restructurer restructurer ta business, restructurer tes affaires, réaménager tes finances, négocier avec ta banque. Bon, malheureusement, souvent, ce qui se produit, c'est que tu mets du monde à pied. Et puis, malheureusement, il y a des conséquences sociales aussi. Mais c'est comme on donne du temps pour éviter les répercussions économiques, sociales qu'une faillite peut avoir. Et puis, t'ouvrir même la possibilité, si tu réussis ton coup, à poursuivre tes activités un peu plus tard. Donc, d'éviter la faillite.
Quand c'est une entreprise... Bon, on entend ça souvent, là. Il s'est mis sur la protection de la faillite. Il va faire un deal. Il devait 100$, puis là, il va faire une offre à 50 cents dans la pièce. Fait qu'il va s'en sortir, puis il va se repartir. Parce que le créancier dit, plutôt que de tout perdre, je vais prendre 50 cents. C'est ça, la mécanique.
Oui, pendant que la loi sur les arrangements avec les financiers te couvre, là, évidemment, il y a de la négociation qui a lieu entre la personne qui est en dette, l'entreprise qui est sur le bord de la faillite, et puis ses créanciers. Il se peut fort bien que les créanciers veulent rien savoir, mais par contre, en regardant la situation de l'entreprise, les perspectives qui remontent la côte, etc., il peut y avoir des arrangements comme ça. C'est justement le nom de la loi, c'est des arrangements. Donc, il cherche à y avoir des arrangements. Comme tu dis, des fois, pour chaque pièce que l'entreprise te doit, tu vas peut-être accepter que tu repayes 75 cents parce que si elle fait complètement faillite, tu risques de tout perdre. En d'autres mots, pour le créancier, souvent, le choix, c'est entre perdre 25 cents puis perdre 75 cents.
Oui. OK. Ça, c'est pour la business. Puis la business, probablement qu'elle va se faire dire par ses fournisseurs, bien là, pour un temps, tu vas me payer cash parce que je ne veux pas me rembarquer à te faire un compte recevable qui n'aurait pas de bon sens. Je veux te voir aller, donc tu vas me payer comptant sur livraison. Ça se peut, ça?
Oui, absolument.
OK. Donc,
absolument.
Dans la vie familiale, moi, je fais faillite personnelle, là. Est-ce que j'ai plus de carte de crédit, j'ai plus de carte de guichet automatique, j'ai plus rien, là. Comment je m'arrange?
Mais ça dépend des cas. Il faut pas oublier que la loi est supervisée par un bureau fédéral qui s'appelle le bureau du surintendant des faillites. Et ils vont voir dans chaque cas qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent permettre. C'est bien entendu que si tu avais une carte de crédit qui te permettait d'emprunter chaque mois sur ta carte 20 000 $, ben là, si tu déclares faillite si tu es sur la loi sur des arrangements avec les créanciers, mais là, ta banque va dire non, on va peut-être te permettre d'emprunter 1 000 $ là pour te permettre de manger, mais tu pourras plus emprunter 20 000 $. Là, c'est évidemment à la discrétion des émetteurs de cartes de crédit de prendre ces mesures-là, mais il faut que ces émetteurs-là soient informés par la personne. Et le bureau du surintendant des faillites surveille les possibilités qu'il y ait de la fraude, évidemment.
D'accord. Quand j'ai l'étiquette failli, j'ai fait faillite, je reste avec cette étiquette-là combien de temps?
Mon Dieu, pour le reste de ta vie. Quand tu réempruntes, mettons que tu as fait faillite avec une entreprise, puis tu veux en faire redémarrer une nouvelle, et tu es obligé de déclarer à ton prêteur éventuel, tu es obligé de déclarer que tu as déjà fait faillite.
On a déjà connu des faillites à répétition, là, des gars qui disaient, on change ça, on ferme, on passe à un autre nom, that's it.
Ah.
Non?
On est coupé.
Pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Jean-Luc Mongrain.
C'est bien important de faire partie d'une équipe. François Gagnon arrive en relève, frappeur de relève, notre spécialiste Pierre Fortet tantôt. C'est le chroniqueur que vous connaissez bien sûr, ici au 98.5. François, bon, oui. on est failli pour combien de temps? C'était ma dernière question, c'est là que t'embarques.
Bon, failli. En fait, au moment où tu déclares faillite, là, il y a une période de latence, là, OK, où tu dois payer un certain montant chaque mois. Mm-hmm. Si tu n'as pas d'excédent dans ton budget, c'est-à-dire que tu n'as pas eu de revenus excédentaires, ça va durer pour une première faillite 9 mois.
Okay.
Et quand tu as des revenus excédentaires, là, tu es pris pour 21 mois. à payer.
Ah oui, parce que tu as des moyens de payer.
Avant, oui, c'est ça. Avant d'être libéré de ta faillite.
Exact.
Après, c'est pas fini, là.
OK.
Après, t'en as pour 7 ans avec une petite note dans ton dossier de crédit, là. Puis là, à chaque fois que tu vas vouloir avoir quelque chose, ben, Seigneur, ils vont te poser des questions.
C'est mieux de travailler sur le cash que de travailler sur l'emprunt parce que tu n'auras pas.
Ouais, c'est ça. Remarque qu'il y a moyen de s'en sortir. Tu sais, si tu es discipliné, puis tu vas voir ton banquier avec qui tu fais affaire depuis longtemps, là, tu te dis, garde, c'est pas j'ai pilé sur une pleure de banane, tu sais, j'ai pas fait exprès, là, il m'est arrivé une bad luck, puis malheureusement, ça peut être un divorce, ça peut être ça peut être n'importe
quoi. La vie.
Ben oui, ça fait partie des aléas de la vie. Là, ils vont peut-être te donner une petite carte de crédit de 500$. Là, tu refais ton crédit tranquillement. Puis au bout de 5 ans, ben là, peut-être que ta banque va dire, ben garde, t'es discipliné, on voit que t'es sérieux,
t'as pas manqué
à tes obligations, t'as pas de retard dans ton cellulaire, t'as pas de retard dans tes paiements, tes autres paiements, t'as toujours payé ta carte de crédit à temps, ben là, on serait peut-être prêt à consentir un prêt hypothécaire, tu sais, ça va être en bas de 7 ans, là.
T'sais. Oui, je comprends bien.
Faut que tu sois discipliné.
J'ai une autre question en sortant de ça, parce que le temps file, qu'est-ce que tu veux, le problème technique a fait en sorte qu'on est un peu collé, là.
Oui.
Trouves-tu, François, qu'on ait une carence en éducation économique et budgétaire dans notre réseau scolaire?
Ça, c'est clair. C'est clair, clair, clair et net. Je l'ai vu pendant 3 mois, là, pendant la crise du COVID. Là.
Ben oui, tu reprenais des appels de tout le monde, puis les gens ne savent pas comment ça fonctionne.
La base, le budget. Cool. Tu sais, à l'époque, là, regarde, on a quand même quelques cheveux gris, tous les deux. Là. Rappelle-toi, à l'époque, on avait une caisse. Tu sais pas de quoi tu parles. Rappelle-toi, à l'époque, on avait des petites caisses scolaires. Mm-hmm. Ça n'existe plus à cette heure. Il incite pas les jeunes à économiser. On leur montre pas c'est quoi la valeur de l'argent.
Puis on sollicite c'est davantage facile. La consommation que dans
ben
notre
oui.
temps, entre toi et moi.
Tout à fait. Ben, tout à
téléphone
fait.
Cellulaire, c'est le fun à Moutadie, mais ils sont toujours là-dessus.
Ben oui, c'est ça. À 10 ans, ils n'ont un. Fait que là, c'est de la facilité totale. Puis ils n'ont pas la valeur réelle de ce que c'est 1$. Alors donc, oui, ça devrait revenir, ça, l'éducation économique.
Absolument.
Et on est chanceux, on est deux chroniqueurs financiers à Cogeco, les patrons nous font confiance, puis on est là pour ça, enseigner justement ces rudiments-là de l'économie.
Ouais.
À TVA, ça a été la même chose, Radio-Canada, ils ont pris la relève à l'époque aussi.
Ouais.
Alors donc, on est plusieurs à faire de l'éducation, mais ça devrait aller au-delà de
absolument.
Ça.
Absolument. Écoute, comme citoyen, là, ta première responsabilité, c'est de savoir comment jouer avec ton économie, ton travail. Le fruit de ton travail, c'est de l'argent. C'est de même que c'est mesuré. Que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Tu sais, quand on dit « fais un budget », un bilan?
Un billet à demande, une traite bancaire, un chèque. Un télévirement, là, c'est épouvantable.
Un chèque, il y a des gens, moi je connais beaucoup de personnes qui ont pas besoin de faire un chèque.
Mais c'est ça, mais il y en a qui sont pas encore capables de faire des transferts, par exemple.
Non, c'est une autre histoire. Mais tout s'apprend dans la vie.
Tout s'apprend. Merci beaucoup, François, d'être venu en relève. Merci
ça
bien.
Ça me fait plaisir, c'est un plaisir de te retrouver, Jean-Luc.
OK, aussi. Moi aussi. Bye-bye, François.
Bye-bye.
Ah là là.